VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 20 décembre 2018, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Anne Albertson.
Et vous commencez les titres.
En République démocratique du Congo, les élections maintenues au 23 décembre selon la CENI, mais les meetings de campagne restent suspendus à Kinshasa. L'opposition rejette cette mesure, la réaction dans cette édition de Martin Fayoulou, l'un des candidats de l'opposition.
Madagascar, dans l'attente des résultats de la présidentielle de mercredi, les deux finalistes se sont déclarés convaincus de remporter la victoire quelques heures après la clôture du scrutin.
Ici aux États-Unis, de nouveaux ennuis pour Facebook. Le réseau social a été assigné en justice par le gouvernement de Washington.
Le président américain a pris la décision de retirer les troupes américaines de Syrie, une annonce surprise qui a provoqué une levée de boucliers dans son propre camp.
À suivre également notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La commission électorale en RDC réitère que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre, balayant les rumeurs d'un éventuel report. La mise au point de la CENI intervient au moment où la campagne pour la présidentielle est suspendue à Kinshasa. Les précisions de notre envoyé spécial dans la capitale congolaise, Abdourahmane Dia.
Le rapporteur de la CENI est monté au créneau pour indiquer que les quelques 8000 machines à voter détruites lors de l'incendie d'un entrepôt à Kinshasa ont été remplacées grâce à la reconfiguration de plus de 9000 machines. Jean-Pierre Kalamba a aussi déclaré que les procès-verbaux sont déjà en place dans les provinces, des déclarations qui interviennent alors que le gouverneur de Kinshasa a suspendu la campagne pour les candidats à la présidentielle dans la capitale. Une décision diversement appréciée ici et qui a déçu les partisans de l'opposant Martin Fayoulou qui s'était déplacé à Ndjili pour l'accueillir.
On était ici depuis les 9h qu'on était ici, mais jusqu'à présent, rien n'était confirmé. On est vraiment décidé à ce que fait le gouvernement congolais. Parce que nous sommes une population qui sont venus ici pour attendre, pour écouter ce que Martin Fayoulou va dire au peuple congolais. Malheureusement, jusqu'à présent, Martin n'est pas là.
L'UDPS, le parti du candidat Félix Tshisekedi, rejette également cette suspension de la campagne. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
La campagne électorale demeure donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par les autorités provinciales de Kinshasa. Elle a été annoncée au moment où le candidat d'opposition, Martin Fayoulou, était en route pour la capitale en vue d'un rassemblement public qui a été finalement annulé. Idriss Fall a recueilli la réaction du candidat Martin Fayoulou.
La campagne est perturbée par le régime barbare de M. Kabila. C'est ça que nous connaissons. Est-ce qu'un gouverneur peut de son chef décider d'arrêter la campagne d'un candidat?
Il a invoqué des raisons de sécurité.
Quelle sécurité? Parce que la loi électorale est claire. Pendant la campagne, on ne peut pas entraver la campagne de qui que ce soit. On ne peut pas. Mais quand ils disent la sécurité, mais j'étais dans l'ex-province de l'Équateur, j'étais en Mbandaka, en Badolité, j'étais à Kisangani. Il n'y a pas de policiers qui sont venus assurer la sécurité. Mais il y avait un monde impressionnant. Mais pourquoi n'ont-ils pas prétexté ces problèmes de sécurité?
Martin Fayoulou, candidat à la présidence de la RDC, que nous retrouverons dans la seconde partie de cette édition. Il parlera au sujet de l'incendie de l'entrepôt de la CENI à Kinshasa.
À Madagascar, les deux finalistes de l'élection présidentielle, Marc Ravalmanan et Ange Rajuel, se sont déclarés mercredi soir devant leurs partisans convaincus de remporter la victoire quelques heures à peine après la clôture du scrutin. Toute la journée, les Malgaches ont voté pour départager les deux anciens chefs de l'État engagés dans un duel au couteau aux airs de règlement de compte personnel. Selon le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne, Christian Preda, la participation était en baisse d'environ 4 à 5 % à la mi-journée par rapport à celle du premier tour qui était de 54%.
Au Mali, 6 morts et 7 blessés après l'attaque contre un car de transport privé. Le véhicule en provenance de Gao a sauté sur une mine entre les localités de Boni et de Douenza. Les victimes et les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Mopti. Kassim Traoré nous en donne les détails.
C'est après un bon départ dans une ambiance bon enfant que le car s'est dirigé vers Douenza. C'est aux alentours du village de Dala, à quelques 35 km de Douenza-ville, que le car a heurté un engin explosif. Un grand bruit de l'explosion a attiré tous les riverains. Ces derniers se sont rendus compte qu'un drame vient de se produire. Dans le feu de l'action, les populations sont venues afin d'apporter le secours. C'est ainsi qu'ils ont constaté sur les lieux que deux passagers sont morts sur le coup. Le détachement de l'armée malienne positionné à l'entrée de Douaza est venu en renfort, soutenu par quelques gendarmes afin d'organiser les premiers constats. C'est après tout cela que les deux victimes et les blessés ont été transportés vers l'hôpital régional de Mopti. Certains blessés, avant d'arriver à l'hôpital, ont rendu l'âme, ce qui donne un bilan provisoire de 6 morts et 7 blessés. Les forces armées maliennes ont été déployées dans la zone pour faire les premières enquêtes. Et toute la nuit, l'armée a continué sa patrouille et des ratissages tout autour de Dala, lieu de l'accident. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les pays africains du Conseil de sécurité ont annulé hier pour la deuxième fois en 10 jours la convocation d'un vote destiné à établir le principe d'un possible cofinancement par l'ONU d'opérations de paix africaines en raison de la menace d'un veto américain. Ce vote a été reporté à vendredi, selon des diplomates.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Assemblée générale de l'ONU a ratifié hier à une très forte majorité le pacte mondial pour les migrations qui a déchaîné les passions dans plusieurs pays et provoqué la rupture de la coalition gouvernementale en Belgique. Le point avec Eki Abadou.
152 pays ont voté en faveur du pacte entériné au Maroc début décembre par 165 membres des Nations Unies. Lors du vote hier, 12 pays se sont abstenus et 5 ont voté contre, dont les États-Unis, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en saluant l'adoption du document, disant espérer que ceux qui ont choisi de rester à l'écart comprendront l'intérêt et s'y associeront à l'avenir. Dénoncé par les nationalistes flamands, le pacte a provoqué la rupture de la coalition au pouvoir en Belgique, ponctuée mardi par la démission de son premier ministre libéral, Charles Michel. La Belgique a néanmoins voté hier en faveur du texte. La Hongrie a une nouvelle fois dénoncé une grave erreur et brandit la menace de flux massifs de migrants. Le nouveau gouvernement brésilien, qui entre en fonction en janvier, a annoncé qu'il allait se dissocier de ce texte. Cependant, le pacte mondial pour les migrations, premier du genre et non contraignant, il a été confirmé le 10 décembre à Marrakech et prône l'interdiction des détentions arbitraires et n'autorise les arrestations qu'en dernier recours.
Ici aux États-Unis, nouveaux ennuis pour Facebook. Le réseau social a été assigné en justice par l'administration municipale de la capitale fédérale. Des détails avec Nathalie Barge.
Facebook est accusé d'avoir laissé les données personnelles de plusieurs millions d'usagers arriver à leur insu entre les mains de Cambridge Analytica, une firme britannique qui a travaillé pour Donald Trump pendant la campagne de 2016. Le réseau social se débat déjà avec une autre polémique. Hier, le New York Times a révélé qu'il a partagé les données de ses utilisateurs avec des géants du web comme Amazon, Spotify, Microsoft et Netflix. Il aurait communiqué à quelques 150 entreprises les messageries privées, les noms des amis ou certaines de leurs publications. Facebook s'est efforcé de minimiser ces dernières accusations, affirmant que les utilisateurs ont dû au préalable donner explicitement leur accord. Facebook est aussi confronté depuis mardi à un appel au boycott lancé par l'Association de défense des droits des Noirs, la NAACP. Elle l'accuse d'avoir cherché à la discréditer via une agence appelée Definers, qui aurait cherché à la présenter comme ayant une liaison avec le milliardaire George Soros, bête noire des républicains et cible de nombreuses attaques antisémites. Depuis 2 ans, le groupe de Mark Zuckerberg n'en finit plus de se débattre dans des scandales à répétition.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a ordonné mercredi le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie, estimant avoir vaincu le groupe État islamique, une décision qui a provoqué la stupeur et une levée de boucliers dans son propre camp. Nombre d'élus républicains ont vivement regretté cet arbitrage soudain du 45e président des États-Unis. Les généraux du président n'ont pas la moindre idée d'où est venue cette décision, a souligné le sénateur conservateur Ben Sasse dans un communiqué cinglant.
Pour son collègue Marco Rubio, cette décision, prise en dépit de mise en garde quasi unanime de la part des militaires, est tout simplement une erreur qui hantera l'Amérique pendant des années. Ces derniers mois, de hauts responsables militaires américains ont multiplié les mises en garde contre un retrait précipité qui laisserait la voie libre en Syrie aux alliés du régime de Bachar al-Assad, à savoir la Syrie, grande rivale des États-Unis, et l'Iran, véritable bête noire de l'administration Trump. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le kilogramme de café coûtera 700 francs CFA durant la campagne 2018-2019. Selon l'agence Ecofin, ce tarif marque une baisse de 50 francs CFA par rapport au barème précédent, mais il représente 79% du prix coût assurance et fret contre 65,53% un an plus tôt. La Côte d'Ivoire envisage d'augmenter sa production de café à 200 000 tonnes à partir de 2020 contre environ 100 000 tonnes produites ces dernières années. En 2009, le Soudan s'attend à une croissance de 5,1% contre 4% cette année, selon un projet de budget que vient d'approuver son gouvernement. Les exportations devraient être en hausse de 30%. Les recettes devraient augmenter de 39% pour atteindre 162,8 milliards de livres soudanaises et le déficit budgétaire devrait passer de 3,7% cette année à 3,3% en 2019. Pour exécuter le budget 2019, le gouvernement privilégiera une production accrue de pétrole, de blé et de sucre, ainsi que des investissements dans l'économie numérique. Terminons avec la Guinée-Bissau où les transporteurs ont entamé hier une nouvelle grève de 3 jours pour réclamer au gouvernement le respect d'accords signés en octobre. Les transporteurs réclament entre autres la réduction des taxes et du contrôle des nombreux rackets dont ils sont victimes de la part des différents fonctionnaires chargés de la circulation routière.
Et maintenant la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Le Real Madrid en finale du Mondial des clubs.
Oui, un triplé de Gareth Bale de retour à la compétition a envoyé les Merengues, double tenant du trophée, en finale hier à Abu Dhabi. Victoire du Real Madrid 3-1 devant le club japonais de Kashima Antlers. Samedi en finale, le Real affrontera le club émirati et hôte de la compétition El Ain qui a surpris River Plate, l'autre favori de ce tournoi. Avec le Real, 5 tirs au but à 4, les deux clubs n'avaient pas pu se départager dans le temps réglementaire et la prolongation 2-2.
Mourinho estime avoir un avenir sans Manchester United.
Manchester United a un avenir sans moi et j'ai un avenir sans Manchester United. Pourquoi devrais-je partager mes sentiments? C'est terminé, a déclaré José Mourinho. Le technicien portugais n'a pas souhaité s'étendre sur les détails de son licenciement de Man U. Les Red Devils pointent déjà à 11 points de la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. L'ancien attaquant du club Ole Gunnar Solskjaer a été nommé hier pour succéder aux Portugais jusqu'à la fin de la saison.
Roger Lemaire revient aux affaires à l'Étoile du Sahel en Tunisie.
Oui, déjà passé par le banc de l'Étoile sportive du Sahel en 2013-2014, Roger Lemaire va reprendre du service. Au micro de la radio nationale, Kaïs Anchou, porte-parole du club de Sousse, a annoncé qu'un accord a été conclu avec le technicien français. À 77 ans, l'ancien sélectionneur de la Tunisie s'apprête à retrouver un club bien parti pour se qualifier en phase de groupe de la Coupe CAF, mais en difficulté en championnat, où il occupe une décevante 6e place avec 1-0, 4 défaites en 5 matchs.
Le président de la fédération allemande attaque Infantino.
Reinhard Grindel reproche au président de la FIFA son manque de transparence et exige une meilleure information sur ses projets de nouvelles compétitions. Gianni Infantino envisage depuis des mois la création d'une Ligue des Nations mondiale et d'un mondial des clubs élargi à 24 équipes. Le projet de vendre des droits de la FIFA à des investisseurs prêts à mettre 25 milliards de dollars sur 12 ans pour organiser le tournoi des clubs suscite en outre l'inquiétude. NBA, pour finir avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière.
Bien, Yacouba, Cleveland est tombé à domicile face à Charlotte, 99-110. San Antonio a défait Orlando, 129-90. New York Knicks a été plumé par Philadelphia. Philadelphie, 109-131. Phoenix l'a emporté sur Boston, 111-103. Indiana surpris par Toronto, 96-99. Brooklyn Nets a battu Chicago Bulls, 96-93. Washington Wizards a perdu devant Houston, 118-103. 118-136. New Orleans s'est incliné devant Milwaukee, 115-123. Détroit a surclassé Minnesota, 129-123. Golden State a été terrassé par Utah Jazz, 103-108. Pareil pour Memphis face à Portland, 92-99. Oklahoma a gagné face à Sacramento, 132-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Bion, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Kinshasa, hier, des centaines de partisans du candidat Martin Fayulu, qui tentaient d'aller à la rencontre de leur leader, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des policiers. Que pensent les Kinois de la suspension de la campagne dans la capitale? Thierry Kabundi, de nos stations partenaires Top Congo FM, a recueilli des réactions dans les rues de la capitale congolaise.
La décision a fait l'effet d'une bombe tant les candidats les plus en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain comptaient conclure par des grands rassemblements à Kinshasa. Martin Fayulu de la coalition Lamuka avait même prévu un meeting ce même mercredi 19 décembre à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Le candidat numéro 4 en provenance de Maïndombe a été empêché d'entrer à Kinshasa. Son cortège reste bloqué à Ntsele à l'entrée de la capitale comme le confirme ici l'un de ses soutiens. Le ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
On ne cédera jamais à la provocation. Nous sommes serrés, en train d'attendre pour que nous puissions continuer à prendre la route avec notre candidat, le numéro 4, Martin Fayulu, qui est là, bloqué dans sa jeep.
À la place Sainte-Thérèse, où était prévu le rassemblement de Fayulu, des militants sont encore très visibles, malgré une présence importante des éléments de la police. Dans le camp de Félix Tshisekedi, on crie au scandale. Jolino Makelele est le porte-parole de l'UNC. De Vital Kamerhe.
C'est la énième manœuvre insupportable du pouvoir en vue de rabattre les caquets des opposants. Le pouvoir en place est aux abois. Il voit comment les leaders de l'opposition, en particulier Fachi numéro 20, comment il est en train de drainer des foules. À Kinshasa, c'est l'apothéose. Vous pensez vraiment que le gouverneur Kimbuta, c'est motu proprio qu'il a pris une décision grave comme celle-là? Ce sont les bons de la majorité présidentielle qui, pris des paniques, sont en train de fomenter des histoires pour décourager la population.
Au front commun pour le Congo, coalition au pouvoir, Serge Kadima est le porte-parole du candidat Ramazani Shadary.
Au niveau du Front commun pour le Congo, nous étions amplement préparés pour notre meeting de ce vendredi. Vous-même, vous avez vu le mois passé combien la population congolaise était venue répondre au message du candidat Emmanuel Ramazani Shadary au stade Tata Raphaël. Cette fois-ci, c'était prévu que ce soit au stade des martyrs. Mais hélas, aujourd'hui, le gouverneur de la ville interdit à Kinshasa des meetings. Donc, nous prenons
des avis partagés à la cité où les Kinois sont entre regret, déception et réalisme.
Il n'a pas raison. La campagne électorale prendra fin vendredi le 21 décembre. Il y a les candidats qui se sont déjà préparés afin de tenir leur dernier meeting à Kinshasa. Mais malheureusement, ça vient d'être annulé par le gouverneur.
C'est une décision responsable d'une autorité qui a constaté qu'il y avait péril dans la demeure, que la sécurité des gens qu'il est censé assurer était en danger. Vous savez, en 2011, il y avait même eu des morts. Il y avait deux candidats en ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a trois. Le plus en vue.
Je suis mécontent. En tout cas, qu'on connaît que c'est lui le gouverneur. Il est du côté du pouvoir. C'est ça qu'ils ont fait en 2011. C'est toujours pour bloquer les candidats de l'opposition. L'armée est là, la police est là. Pourquoi pas sécuriser tous les meetings, que ce soit des opposants ou de leur majorité?
Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et Thierry Kabundi vous l'a dit, M. Fayulu a été empêché d'entrer dans Kinshasa par des policiers qui ont barré la route entre Ntsele et Kinkole. Idriss Fall a joint le candidat Martin Fayulu pour revenir sur une journée mouvementée.
D'abord, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils m'ont interdit de battre campagne à Kinshasa pendant que tous les candidats, eux, sont partout ailleurs en train de battre leur campagne. Et deuxièmement, qu'ils me disent dans le reste du pays, à Lubumbashi, ils l'ont fait, ils n'ont pas interdit aux autres. Pourquoi à Kalemie, ils l'ont fait, ils n'ont pas interdit aux autres. Pourquoi ils m'ont empêché d'aller à Kolwezi, ils ont accepté que les autres y aillent. Pourquoi quand j'étais à Kalemie, je voulais aller à Kolwezi, ils ont dit non, je ne peux pas aller à Kolwezi. J'ai dit bon, dans ce cas-là, je rentre à Lubumbashi. Ils ont dit non, quel aéroport du Congo ne vous est autorisé, sauf les trois, Kinshasa, Goma et Bukavu. Pourquoi toutes ces restrictions à un seul candidat? Pourquoi au Maniema, on a molesté les gens qui m'attendaient?
Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais réunir mon état-major. Et puis, avec les autres leaders de la MOUCA, notre coalition, nous allons dire au monde entier ce qui ne va pas. Nous prenons tout le monde à témoin. Le peuple est là, le peuple congolais. Les Kinois étaient nombreux sur la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Les Kinois étaient nombreux tout au long des boulevards, des avenues, des artères de Kinshasa. Ils ont eu peur de voir des millions et des millions de Kinois dans les rues de Kinshasa. Et comme leur candidat est rejeté partout, et ça, ils voulaient imposer ça à Fayoulou. Mais ça, c'est pas sérieux.
Que pensez-vous de l'incendie du dépôt de la CENI à Kinshasa alors?
Mais c'est la mascarade. Nous attendons les résultats de l'enquête internationale. J'ai demandé qu'il y ait une enquête internationale qu'on nous dise comment, dans un état-major, à côté d'un camp militaire, cette avenue s'appelle l'avenue du haut commandement, entendu au commandement militaire, au commandement de l'armée. Comment est-ce que l'incendie s'est dégagé? Quand ils disent qu'ils vont faire revenir le machine de l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont acheté des réserves de combien? Non, tout ça, c'est de la mascarade. Tout ça, ça prouve aujourd'hui que nous avons été très subtils. Nous n'avons pas cédé ou nous n'avons pas été pris au piège de M. Kabila. Sa stratégie de vouloir rouler tout le monde entier, disant que non, l'opposition ne veut pas des élections, l'opposition n'est pas préparée. Aujourd'hui, qui n'est pas préparé? Est-ce que la CENI est préparée? La CENI qui pérorait partout qu'il n'y aurait pas de réponse possible des élections. Et nous demandons à la CENI que le 23, il faut qu'il y ait élection. Nous nous sommes préparés et on le savait et nous avons déjoué leur piège.
Martin Fayoulou, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la République démocratique du Congo qui élit ce dimanche 23 décembre le successeur du président Joseph Kabila avec 2 ans de retard. En cette fin de campagne, émaillée par des incidents violents et meurtriers, la peur s'est installée dans le pays. Quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous électoral? Le pays se dirige-t-il vers une transmission pacifique du pouvoir ou vers le chaos? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Tchad, les agents des postes sont en grève sèche et illimitée depuis mercredi. Sur toute l'étendue du territoire, ils répondent ainsi au mot d'ordre lancé par le candidat, par le syndicat national des postes et télécommunications qui exige le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. André Kodmajinga, notre correspondant, fait le point à N'Djamena.
Le service postal du Tchad traverse une crise profonde depuis plusieurs années. Non seulement les différents services privés de transfert d'argent ont claqué la porte, mais même les citoyens sollicitent les agences de voyage pour le transfert de leurs courriers vers les provinces de l'intérieur. La poste n'a pas assez de moyens de transport pour assurer la liaison en temps réel. Aussi, la subvention accordée par les autorités tchadiennes à la poste a été suspendue avec les 16 mesures d'austérité imposées en 2016 par le même gouvernement pour redresser l'économie en pleine turbulence. Le chef de service de brigade de contrôle d'Erkimba Amadi Hassan estime que le mouvement est légitime.
C'est depuis février que nous souffrons. Voilà, c'est le ras-le-bol maintenant. Avant, on avait le MoneyGram, on avait les Express Money, on avait le Wari, le mandat express international qui vient de la France. Tout ça, c'est des petites recettes. On a besoin d'une subvention pour relancer la poste et c'est fini. Le CFP que vous voyez, hermétiquement fermé maintenant, là, ça génère aussi des recettes.
Et les recettes sont parties où? Dieu seul connaît.
Et elle est légitime. Tout est hermétiquement fermé. Regardez, c'est fermé.
Les grévistes sont déterminés à poursuivre le débrayage jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Ils dénoncent la mauvaise foi des responsables de la poste.
Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est parce que on nous néglige, nous les agents. C'est les agents qui doivent travailler. Ces agents-là qu'on ne donne pas à manger.
Beaucoup sont renvoyés même de leur maison à cause des locations. Et nous avons décidé aujourd'hui de prendre notre destin en main.
L'État paie régulièrement les fonctionnaires. Et nous aussi, nous sommes des fonctionnaires. Ils n'arriveront pas à nous payer. Pourquoi?
Nous sommes des veuves. Tous nos enfants sont dans les forêts. Ils deviennent des Colombiens. En tant qu'un être humain, il faut craindre Dieu quand même.
Moi, j'accuse le gouvernement qui ne veut pas faire un effort. L'avenir de cette entreprise ne dépend que de l'État.
Contacté par VOA Afrique, le ministre en charge des postes avancées de nouvelles technologies et la Direction générale des postes ne souhaite pas se prononcer. Pour le président du syndicat national des postes et télécommunications, Hadadi Labakar, la poste est en train de mourir à petit feu.
À l'espace de 18 ans, nous avons vu défiler 18 ministres. Personne n'a pu relancer la poste. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 40 localités dans ce pays et notre capitale n'atteint pas 1 milliard. Nous arrivons à rejoindre les derniers fonctionnaires qui se trouvent sur l'étendue du territoire. Il y a des banques qui ne payent que dans 4 ou 5 préfectures arrivent à prospérer et que la poste qui est présente dans 40 localités n'arrive pas. Cela veut dire qu'il y a un blocus quelque part. On a investi autour de 4 milliards ou 5 milliards pour réfectionner juste la maison alors que les activités postales ne fonctionnent même pas.
Cette grève va pénaliser les fonctionnaires de l'État dont les comptes sont logés dans les centres de chèques postaux. Ils auront beaucoup de difficultés à percevoir leur salaire de ce mois de décembre. André Kodima Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, premier jour de comparution mercredi pour le général de gendarmerie Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères est poursuivi pour son rôle présumé dans le putsch de 2015. Djibril Bassolé a plaidé non coupable. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Je ne reconnais pas les faits, je plaide non coupable, a déclaré à la barre hier matin, tous deux blancs vêtus, Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré. Mais ses avocats demandent la parole et exigent un sursis. Ils rejettent l'expertise d'une bande sonore issue d'écoutes téléphoniques impliquant le général Bassolé et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
L'action principale de M. Bassolé, c'est de montrer en quoi l'expertise de l'allemand Kunzel est un faux.
Maître Dieudonné Bonkungo, l'un des avocats de Djibril Bassolé.
La loi dit que lorsque un accusé, un prévenu se plaint d'un tel document versé au dossier comme étant un faux, le juge a le choix soit de passer outre, soit de se soir à statuer, tout simplement.
Le rapport d'expertise est donc faux, selon les avocats du général, Maître Bonkungo.
À un certain moment, l'expert, entre guillemets, on attend que ce soit confirmé, a dû reprendre son rapport pour purger les vices, pour le rendre valable. Or, ce n'est pas possible à ce stade-là. Cela revient simplement à dire qu'il n'y a pas de fiabilité dans le travail. Si à tout moment on peut corriger, ça c'est un faux. Et ce n'est pas admissible en droit, en procédure pénale. Même en simple procédure civile, ce n'est pas admissible.
Les avocats de la partie civile, eux, estiment que la défense de Djibril Bassolé a toujours été articulée autour des questions de procédure, de l'instruction jusqu'au jugement.
Nous ne savons pas pourquoi, toujours en disant qu'il veut l'être jugé, quand le moment arrive, la défense de Bassolé tente de reporter.
Pour eux, ce rapport d'expertise est irréversible. Maître Guy Hervé Cam.
On parle aujourd'hui du faux concernant le rapport d'expertise, qui, je vous le rappelle, est dans le dossier depuis le 14 décembre 2016 et toutes les irrégularités concernant ce rapport d'expertise ont été soulevées par la défense de Bassolé, tranchées par les juges au niveau donc de la chambre de contrôle. Donc en réalité, ce rapport d'expertise est aujourd'hui juridiquement tendu, marre, il est irréversible. Maintenant, c'est tout à fait de façon opportune que la défense de Bassolé, voulant obtenir le sursis à statuer, dépose donc une plainte pour faux et s'en prévaloir aujourd'hui pour demander donc le sursis. Donc c'est juste des artifices de nature procédurale, mais qui en réalité n'ont rien de sérieux.
Le tribunal rendra sa décision sur la demande de sursis vendredi, mais le procès lui-même sera suspendu du 21 décembre au 7 janvier 2019 pour raison des fêtes de fin d'année. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Nous sommes le jeudi 20 décembre 2018, c'était Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. Ce sera tout pour cette édition. Greg Burns à la console, Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Jean-Roger Bion à ce micro. Bonne journée à tous à l'écoute de VO Afrique.